On s'occupe de vos finances personnelles au quotidien sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. On est aussi en podcast. Bonjour à vous qui nous écouterez ultérieurement. On s'occupe de vous depuis Station F. On prend le pouls de l'innovation des PME et on parle résilience ici. Toute la journée, l'antenne de BFM Business est mobilisée. Dans les prochaines minutes, on va réfléchir à comment investir très concrètement dans nos petites et moyennes entreprises. Pour vous qui êtes peut-être néo-investisseurs et pour vous qui êtes déjà largement investi dans ces entreprises, pourquoi simplement investir dans l'économie productive, puisque c'est de ça dont on parle. Pour répondre à vos questions, Eric Lewin est avec nous. Bonjour cher Eric.
Bonjour à tous, bonjour ma chère Lorraine.
Notre monsieur Small Cap. Christian Fontaine fait des heures sup, il est le directeur délégué de la rédaction du Revenu, il est encore avec nous. Rebonjour Christian.
Rebonjour Lorraine.
Tout comme Olivier Le Chevalier, cofondateur de DevTech. Rebonjour Olivier.
Rebonjour voilà. Lorraine.
Cette question toujours, pourquoi investir dans nos PME plutôt que dans d'autres typologies d'entreprises ou d'autres typologies d'actifs? L'économie productive pour les nuls, c'est quoi Christian?
L'économie productive pour les nuls, c'est effectivement investir, que tout un chacun puisse investir dans l'économie productive et investir dans nos PME les plus dynamiques. En fait, en France, on a un double problème. Un problème, bien sûr, de financement de nos entreprises, PME, ETI, mais aussi et surtout un problème de rendement et de rentabilité de l'épargne, notamment de l'épargne populaire. Tout à l'heure, on parlait du livret A. On aurait pu également généraliser à l'ensemble des livrets d'épargne, voire à l'assurance vie en euros. Aujourd'hui, tous ces placements rapportent peu ou prou l'inflation et ce n'est pas satisfaisant. Le rendement aujourd'hui de l'épargne populaire n'est pas à la hauteur des enjeux, notamment des enjeux de financement de l'économie, mais des enjeux aussi de financement de la retraite. Et c'est pour ça qu'il est absolument essentiel d'améliorer la performance de l'épargne populaire, et cela passe entre autres par l'investissement dans des PME.
Eric Lewin.
Écoutez, non, moi je suis un grand spécialiste des boîtes cotées, des PME cotées, et on voit que finalement depuis le début d'année c'était le placement où il fallait être. Parce qu'elle gagne 19% versus 3% pour le CAC 40.
On va y venir, Eric, on va revenir sur cette performance. Mais d'abord, pour rester peut-être dans un cadre de définition, justement, une PME cotée versus une PME non cotée, du point de vue de l'investisseur, quelles sont les différences, vous voyez?
Écoutez, très, très rapidement, il est évident que quand vous êtes cotée, vous êtes une PME cotée, vous avez beaucoup plus de contraintes. Il y a une contrainte de publication de résultats, il y a une contrainte de communication. Ce que vous avez moins dans le monde du private equity. Mais j'ai quand même envie de dire que quand vous êtes dans le monde du private equity, je ne parle pas des boîtes qui sont à 100% indépendantes où elles font ce qu'elles veulent,
oui.
Mais quand vous êtes dans le monde du private equity, vous avez quand même des fonds qui regardent de très près vos résultats, vos tableaux de financement, vos free cash flow, de sorte que c'est un exercice aussi périlleux. Il ne faut pas croire qu'être coté en bourse demande beaucoup de contraintes, c'est vrai qu'il y en a, mais dans le private equity, il y en a aussi, il faut dire ça à toutes les sociétés qui ont envie d'être cotées, venez vous coter sur le marché, parce que même si vous avez des contraintes, n'oubliez pas que dans le monde du private equity, vous avez des fonds d'investissement qui, eux, ne vous louperont pas si vous loupez votre rentabilité à un point de marge. Maintenant, c'est sûr que les entreprises sont complètement indépendantes avec 100% du capital. Si vous n'avez pas besoin de financement, si vous arrivez à vous développer, à avoir des free cash flow positifs année après année, eh bien, restez indépendant. Voilà ce qu'on peut dire pour conseiller à toutes ces sociétés.
Christian, pour rebondir, et puis Olivier, si vous voulez bien.
Oui, la grosse différence pour l'investisseur particulier entre le coté et le non-coté, c'est bien sûr la liquidité. Puisque lorsque vous investissez dans une entreprise, dans une action cotée en bourse, à tout moment, vous pouvez décider de vous renforcer ou au contraire de vous alléger. À l'inverse, avec le non-coté, je dirais qu'il y a une illiquidité de votre investissement. Vous devez le conserver pendant plusieurs années, souvent et parfois plus de 10 ans. Mais en contrepartie, vous pouvez avoir un espoir de gain qui est encore supérieur à celui des entreprises cotées.
Olivier.
Oui, non, mais effectivement, ce que je trouve intéressant, tout de moins sur les small et mid cap, ça, c'est que vous avez beaucoup d'offres et beaucoup d'actions où vous pouvez vous positionner. C'est-à-dire qu'elle représente quand même une large 80%. De sociétés non cotées sont quand même des sociétés européennes, donc elles sont beaucoup plus nombreuses, donc on va pouvoir se positionner sur différents secteurs, différents sujets et pouvoir investir dedans.
Vous avez souligné, Eric, le difficile exercice de communication. On aura peut-être quelques minutes pour revenir sur Carmat, évidemment, dont on suit les difficultés au fil des jours et des heures, si je puis dire. D'abord, parlons de ce qui performe bien. Vous le disiez, le CAC small depuis le début de l'année, une performance à deux chiffres.
Oui, plus 18% pour le CAC Small contre 3% pour le CAC 40. Il y a plusieurs raisons à cela que je vais minorer. Un, la baisse des taux est vraiment favorable dans le monde des small caps. Il faut savoir que dans le monde des small caps, 45% de leurs crédits sont à taux variable. Donc, dès que tes taux baissent, c'est plutôt une bonne chose. Les droits de douane, dans le monde des small caps qui réalisent 85% de son chiffre d'affaires en Europe, finalement, les droits de douane n'ont pas beaucoup d'impact. Il y a la Caisse des dépôts qui a investi 500 millions d'euros dans 25 fonds. Donc ça, c'est un événement plutôt favorable. Et puis, ce qu'on remarque, Lorraine, c'est que la collecte repart dans le monde des small. Janvier, février, mars, il y avait une collecte négative. Avril, c'était stable. Et là, on a vraiment une collecte positive. J'ajouterais, dernière chose, qu'il y a le retour confirmé des opérations financières. Il y en a eu pas mal au cours du premier semestre. Il y a eu sur Waga Energy, on est dans le biométhane, plus 27%. Il y a eu M2I dans l'éducation, la formation professionnelle, avec une prime de 136%. Donc il y a beaucoup d'opérations financières. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'introductions en bourse à côté. La cote se raréfie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand vous investissez dans une small et qu'il y a une opération, souvent les primes sont entre 50 et 150%, ce que vous n'avez pas dans le monde des grosses capitalisations, où quand vous avez 15 ou 20% sur une prime, c'est vraiment Byzance. Donc voilà pourquoi finalement ce CAC small va performer et continuer. Et je dis une dernière chose, il y a toujours une décote de 25% entre le coté et le non-coté, c'est-à-dire qu'il est plus intéressant d'intervenir et d'investir dans le coté.
Christian, réaction.
Oui, enfin, la diversification paye en 2025. La diversification sur les small caps, ça n'avait pas été le cas au cours des dernières années. Il n'y a pas que les 7 magnifiques, il n'y a pas que la tech américaine, il y a bien sûr aussi les small caps européennes. Eric vient de le rappeler, plus 20% depuis le début de l'année. Alors c'est vrai qu'il y a quand même un effet de rattrapage, et l'effet de rattrapage risque très certainement de se poursuivre. Il y a aussi les marchés émergents, les marchés frontières dont on parlait l'autre jour, et puis bien sûr toutes les belles valeurs value européennes. C'est vrai que pour la première fois depuis de nombreuses années, les stratégies de diversification de portefeuille risquent d'être payantes cette année, c'est à noter.
Enfin, la diversification fonctionne, Olivier ?
Exactement, donc il faut continuer à se diversifier, comme je disais, sur les small et mid cap, et toujours aller sur la santé, la défense et la tech. Et du coup, suivre bien ces valeurs, toutes les valeurs qui vont être liées à l'inflation et potentiellement surréagir à la hausse des taux s'il y avait un retour potentiellement ou un retard sur cette baisse.
Eric, rapidement, je voudrais qu'on fasse un tout petit bilan des top flops, des small plutôt cap depuis le début de l'année. En 2-3 minutes, là, qu'est-ce qu'on retient ?
Alors, ce qu'on retient quand même, c'est qu'il y a eu encore beaucoup, beaucoup de difficultés dans le monde des biotech. On a vu hier avec Carmat, qui est quasiment en dépôt de bilan. Sur le fait de Carmat, j'ai beaucoup parlé sur ce dossier. J'ai toujours dit que cette boîte n'avait absolument rien à faire en bourse. C'était un scandale absolu d'avoir laissé ce genre de société en bourse, dans la mesure où ça dépend, il y a trop de capex, il y a trop d'investissements. C'est une société qui est largement déficitaire, puisque même sur 2025-2026, ils prévoyaient entre 30 et 35 millions par an. Ils ont fait des augmentations de capital successives. Et donc, qui a été le dindon de cette farce Carmat ? C'est le petit actionnaire, la veuve de Carpentras. Donc, je pense que Biotech et ce genre de société n'ont strictement rien à voir en bourse, rien à faire, parce que c'est beaucoup trop compliqué. Il faut comprendre que dans le monde des biotech, on a vu aussi Faxiam qui est en faillite, en liquidation. Dans le monde des biotech, il faut 10 ans entre le moment où vous décidez de mettre une molécule et le moment où elle est lancée sur le marché. Là, c'était un peu sur mon coup de gueule. Les sociétés qui ont bien performé, j'en ai retenu deux pour pas parler. Je pourrais parler des heures des small caps, vous savez, c'est ma passion. Il y a Exile Technologies, qui est l'ex-Finucem, la boîte de Raphaël Gorgé.
Oui.
Sur les drones, avec des contrats qui se multiplient. Dernier hier dans la marine indonésienne. Plus 450% depuis le début de l'année. Et puis il y a Claranova qui se recentre, qui est un éditeur de logiciels, qui avait une division qui s'appelait Planet Art, qu'ils vont vendre. Et donc ça plaît beaucoup aux investisseurs, parce qu'ils deviennent quasiment un pur player dans l'édition de logiciels. Maintenant, deux flops quand même, à part les biotech. Maison du Monde, moins 43%. Pourquoi Maison du Monde n'y arrive pas dans la décoration? Les produits ne plaisent pas, ils ont un vrai problème de positionnement. Et puis Xylem Animation qui doit négocier avec les plateformes. Vous savez, ils ont des programmes de cinéma, de télé, notamment Oggy et les Cafards. Ils ont beaucoup de mal à négocier maintenant avec les plateformes comme Netflix, donc moins 35%. Mais encore une fois, c'est quand même un premier semestre extrêmement positif. Et je prends le pari avec vous, je pense qu'on va encore continuer à surperformer sur le S2 2025 dans notre monde fantastique des small et mid caps.
Les leçons qu'on peut tirer de ce top flop d'Eric, hein, c'est l'avis d'Eric. Christian, peut-être pour l'investisseur particulier, pour ceux qui utilisent leur PEA et leur PEA PME pour miser sur ces entreprises.
les leçons, c'est que lorsqu'on investit dans des entreprises, dans les small cap, il faut revenir un tout petit peu aux règles de bon sens. Et les règles de bon sens, c'est que la biotech, c'est plus risqué que le commerce. Les règles de bon sens, c'est que les actions sont plus risquées que les obligues. Les règles de bon sens, c'est que, bien sûr, il faut toujours être diversifié. Donc, si vous investissez, non pas en direct dans des small cap, mais via des fonds, il faut mieux investir dans des fonds qui investissent eux-mêmes sur différents secteurs d'activité. Et puis aussi, et là, je pense surtout aux private equity, qui connaissent des phénomènes de mode considérables. Il ne faut pas investir une année dans le private equity, il faut investir plusieurs années de suite afin d'optimiser vos prix de revient.
Règles de bon sens et réaction à ce qu'on vient de dire, Olivier Le Chevalier.
Effectivement, règles de bon sens aussi. Moi, je trouve une difficulté qu'on trouve sur le small et mid cap, c'est d'avoir accès à l'information. Quand même, c'est pas toujours facile et aisé, et d'arriver à lire entre les lignes de l'entreprise, de son futur développement, et de savoir comment elle va être liée aussi par rapport à tout ce qu'on peut trouver en termes de risques financiers à côté.
On a documenté au cours des derniers mois dans cette émission régulièrement les tensions qu'il peut y avoir entre la compétition, la rivalité, pardonnez-moi si je suis un peu caricaturale, entre l'univers du côté et l'univers du non-côté. Pour une entreprise, on sait le dilemme, rentrer en bourse, pas rentrer en bourse. Qu'est-ce qui peut motiver, puisque vous appelez de vos voeux à une cote plus dynamique, Eric, qu'est-ce qui peut motiver une entreprise à rentrer sur la cote mid et small en 2025 là?
Des règles moins contraignantes, ça me paraît évident. Il y a des règles quand même très contraignantes quand vous êtes une petite société. Il y a des coûts aussi qui sont très importants, qui peuvent dissuader. Et puis moi, je pense, j'ai toujours dit qu'il faudrait que les pouvoirs publics quand même s'en mêlent et fassent comme elles ont fait avec le fonds CDC Innovation de 500 millions d'euros, qu'elles abondent un peu afin que l'argent soit beaucoup plus diffusé dans ce monde des small et mid-caps. Parce qu'encore une fois, c'est vrai que Christian parlait du monde du private equity. C'est vrai que dans le monde du private equity, c'est beaucoup plus illiquide, mais on peut également perdre beaucoup d'argent, parce que si vous avez choisi la mauvaise pépite, si vous n'arrivez pas à vendre, c'est perdu. Alors que dans le monde du côté, si vous voyez une société qui a des problèmes de communication qui va mal, vous pouvez toujours à un moment vendre et finalement limiter vos pertes. Mais encore une fois, il faut des pouvoirs publics. Oui. Qui monte en puissance, ouais. Il faut des règles beaucoup moins contraignantes, et surtout ça coûte très cher. Vous savez, j'étais avec un patron de PME, sa boîte elle vaut 30 millions en capitalisation boursière, je ne citerai pas son nom, il paye 270 000 euros en frais en tout genre, communication, cotation. 270 000 euros rapportés à 30 millions de chiffre d'affaires, c'est quand même beaucoup, c'est 1% du chiffre d'affaires, donc il faudrait peut-être réduire les coûts, et avec ça, on permettra à de nombreuses entreprises de venir en bourse.
On parle du risque de l'investisseur particulier, mais pardon, je mets dans les chaussures de tous les entrepreneurs qui sont aujourd'hui à Impact PME et tous ceux qui font tourner notre pays. Le risque de l'investisseur qui met ses billes diversifiées dans une PME versus le risque de l'entrepreneur qui lui a mis toute sa vie en hypothèque sur sa boîte, vous voyez, ça dit quelque chose de notre rapport au risque, non Christian?
Oui, bien sûr, mais là, vous soulevez un vrai enjeu pour les investisseurs particuliers, c'est celle du support d'investissement. Bien sûr que lorsqu'on est un particulier, l'idéal, c'est quand même d'investir dans sa propre entreprise ou dans l'entreprise d'un proche dont on connaît le talent. Après ça, vous pouvez, si vous ne connaissez pas, passer par l'intermédiaire de plateformes de crowdfunding, voire d'associations de business angels. Et puis, je voudrais terminer quand même, tout le monde n'a pas des compétences très pointues sur les small and mid. Vous pouvez investir via des outils, je dirais, intermédiaires, des outils collectifs, des fonds d'investissement, des ETF avec une bonne diversification. Vous confiez votre argent à un professionnel qui va investir dans plusieurs entreprises. Donc, vous avez une diversification et puis ce n'est pas vous qui suivez les valeurs.
Ce rapport au risque, la diversification, pareil pour conclure peut-être Olivier, conseil oui. De bon sens.
Exactement, moi je vais un peu dans le sens de Christian et d'Eric, mais en tout cas c'est vrai que si vous n'êtes pas familier avec les startups, peut-être qu'il faut peut-être pas y aller. Avec les small et mid, si vous n'avez pas le temps de chercher les informations, c'est plus difficile. Donc c'est vrai que je vais rejoindre après Christian d'aller peut-être sur des valeurs refuges, du CAC, des actions qui sont totalement lisibles et qui sont ultra documenté pour pas que vous ayez de surprises. Mais c'est vrai que la difficulté, c'est quand même de se positionner sur du mid et du small, c'est pas toujours évident, et encore moins sur les startups.
Eric, cette différenciation entre startup et PME ou SMID, est-ce qu'elle est vraiment encore viable? On est ici à Station F, il y a plein de PME qui n'ont pas l'étiquette startup mais qui innovent. Il y a plein de startups qui en ont peut-être marre d'être qualifiées de startup, qui sont juste des petites et moyennes entreprises. Est-ce qu'elle veut dire encore quelque chose, cette distinction?
Non, moi je regarde pas vraiment, je regarde surtout est-ce qu'il y a de l'innovation ou pas. Pour moi, je pense que quand il y a de l'innovation, on est dans le monde de la startup. Vous voyez, par exemple, en bourse, il y a pas longtemps, il y a 6 mois, il y a Lighton qui est dans l'intelligence artificielle, qui s'est introduit en bourse avec un très peu de chiffre d'affaires. C'est une PME, mais c'est également une start-up. Donc pour moi, la start-up, il y a vraiment de l'innovation. La PME, on peut être une PME start-up, ce que j'ai envie de dire. C'est-à-dire que start-up égale innovation, le reste c'est autre chose. On est dans l'industrie, on est dans la santé, on est dans la défense. Juste un mot avant de finir, je veux dire que sur la communication des entreprises, pour moi c'est peut-être le point le plus intéressant. Quand on étudie le monde des small et mid-caps, il faut soit aller aux assemblées générales, soit lire tous les rapports annuels, et en tout cas, en tout état de cause, suivre de très près la communication, parce que c'est primordial. Il y a tellement de PDG qui ont souvent menti aux investisseurs, de sorte qu'il y a eu des chutes de 70 à 80%, que c'est beaucoup plus important que dans le monde du CAC 40, où finalement on trouve tout ce qu'on veut, et dans la communication, vous avez tellement de spécialistes en communication au CAC 40 que c'est pas la même chose. Donc dans le monde des small, dernier conseil, vraiment, on suit très près la communication des entreprises, et si elle est défaillante, il ne faut pas acheter l'entreprise.